ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bonjour et bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, l'émission de la culture libre sur Radio Béton 93.6. On va donner les nouvelles du front du côté du droit d'auteur, car si les majors sont très doués pour faire du lobbying et rappeler à tout le monde que le droit de leurs auteurs est sacré parce que elles sont puissantes, elles ont l'influence, eh bien ces mêmes majors ou leurs auteurs n'hésitent pas à plagier, voire à pirater, selon leurs propres mots, des auteurs un peu moins connus, un peu plus anonymes, qui sont par exemple les auteurs de Wikipédia. Il y a de cela quelques mois, c'est-à-dire en septembre, le site Slate a révélé des choses à propos du dernier livre de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, qui d'ailleurs a eu le prix Goncourt, et on y comparait plusieurs passages de type encyclopédique, de type documentaire, de ce roman à des extraits de Wikipédia. Par exemple, sur la ville de Beauvais, selon Monsieur Houellebecq, les premières traces de fréquentation du site de Beauvais pouvaient être datées de 65 000 ans avant notre ère. Confortifiée par les Romains, la ville prit le nom de Caesaromagus, puis de Belloacum, avant d'être détruite en 275 par les invasions barbares. Selon Wikipédia, les premières traces de fréquentation du site de Beauvais datent de 65 000 avant notre ère. Confortifiée par les Romains, Beauvais prend au 1er siècle le nom de Caesaromagus, le marché de César. Devenue Belloacum, la ville gallo-romaine fut détruite à nouveau par les invasions barbares vers 275. Et au total, il y avait trois articles de Wikipédia qui semblaient plus ou moins copier-coller, moyennant certaines reformulations, peut-être pour donner un style plus houellebecquien. Mais en tout cas, on pouvait voir une ressemblance très très frappante et qui ne laissait pas tellement de doute sur la provenance de ces trois passages du roman de Houellebecq. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est un plagiat? Est-ce que c'est une simple citation? Pour le plagiat, les extraits de Wikipédia copiés ne sont pas énormes, donc on rentre pas encore dans cette catégorie-là. Et par contre, ce qui aurait dû être fait pour être tout à fait dans la loi, ça aurait été de citer sa source. Quand on va prendre un morceau d'une œuvre littéraire ou d'une œuvre écrite, en tout cas, c'est toujours possible et autorisé de citer un extrait de cette œuvre tant qu'on en donne la source et qu'on dit « c'est un tel qui l'a écrit, vous pourrez voir le texte complet à tel endroit ». Or, ce qui s'est passé dans le cas de Michel Houellebecq, c'est que celui-ci s'est permis de récupérer du texte de manière un peu sauvage, sans citer absolument la provenance, que ça venait de Wikipédia, ni quels étaient les auteurs de l'article. C'est ce qui est pourtant une obligation légale. Donc il y a eu tout un raffut à propos de ce plagiat. Et bon, les réactions de ton contrat, c'est il y a même une personne qui avait dit puisque la Wikipédia est sous licence libre et que cette licence libre implique que les versions dérivées de ses œuvres soient aussi sous licence libre, il avait dit voilà, je vous donne le roman de Houellebecq, vous pouvez le télécharger, il est sous licence libre. Ça avait été un petit peu un délire. Ensuite, l'éditeur Flammarion a mis un petit peu le holà sur la diffusion de son roman, qui était, on va dire, pas très très légal non plus. Et finalement, l'association Wikimedia France, qui représente en France les auteurs de Wikipédia, a fini par entrer en contact avec Flammarion. Et ces gens-là ne sont pas du tout habitués au monde de la culture libre. Pour eux, ils ont un auteur qui travaillent pour eux, qui leur donnent un manuscrit, ensuite ils deviennent propriétaires de ce manuscrit, ils l'impriment, ils le vendent, mais en tout cas l'aspect licence libre et toutes les clauses qui sont attachées aux licences libres leur étaient malheureusement complètement étrangères. Et qu'est-ce qu'il est arrivé au bout de plusieurs mois de discussion ? C'est que l'auteur a fini par reconnaître qu'il s'était en effet inspiré des articles de Wikipédia qui étaient quasiment copiés-collés. Et les deux parties sont arrivées plus ou moins à un accord, qui fait que sur les prochaines éditions du roman La carte du territoire de Monsieur Welbeck, il sera cité Wikipédia dans la page des remerciements. Voilà ce qui sera inscrit. Je remercie aussi Wikipédia et ses contributeurs, dont j'ai parfois utilisé les notices comme source d'inspiration, et notamment celles relatives à la mouche domestique, à la ville de Beauvais ou encore à Frédéric Niot. Notre écrivain goncourisé, si on peut dire ça comme ça, a finalement avoué à demi-mot qu'il allait chercher des inspirations, voire des phrases à copier dans une certaine œuvre libre. Mais bon, ce n'est pas parce que les auteurs de Wikipédia se cachent souvent derrière un pseudonyme que ce ne sont pas des auteurs qui ne peuvent pas être représentés et voir leur droit d'auteur défendu, n'est-ce pas ? Mais bon, ça me rappelle une citation d'un célèbre artiste, lui aussi, qui s'appelait Pablo Picasso, et qui nous disait que si les bons artistes copient, les grands artistes volent. Ça doit être à ça qu'on les reconnaît. Justement, puisqu'on parle d'un autre grand artiste, qui est malheureusement mort, mais qui n'a pas volé, a priori, en tout cas pas que je sache, on peut parler aussi de Jean Giono. Personnellement, je sais que c'est un grand écrivain français du XXe siècle, dont j'ai eu l'occasion, il y a bien longtemps, de lire une nouvelle de thème écologiste qui s'appelait « L'homme qui plantait des arbres ». Dans cette nouvelle, Jean Giono nous parle d'un vieil homme qui s'était fixé l'objectif de replanter des forêts. C'est une belle histoire qu'il voulait partager. Et d'ailleurs, bon, s'il l'avait écrite, c'était avant tout par conviction écologique, un petit peu avant l'écologie politique telle qu'on la connaît. Et c'était aussi à l'occasion d'un concours lancé par le Reader's Digest sur le thème de la reforestation. Et c'était en 1953. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, un peu plus tard, en 1957, Jean Giono dit renoncer à tous ses droits exclusifs d'auteur. Oui, où il nous dit qu'il autorise absolument toutes les personnes à éditer son œuvre. Il dit que qu'il a eu des universités, des différentes maisons d'édition qui l'ont contacté de par le monde pour publier cette nouvelle dans leurs différents pays et dans différentes langues. Et il dit explicitement « J'ai donné mes droits gratuitement pour toutes les reproductions ». Ce qui veut dire que son éditeur habituel, qui est la maison Gallimard, perdait un petit peu l'exclusivité de l'édition, de la traduction de cette œuvre-là. Donc, il dit renoncer à ses droits, et selon lui, ce qu'il veut avant tout, c'est faire connaître sa cause, qui est la reforestation, plutôt que de vouloir se faire de l'argent avec cette petite œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce que la reproduction de l'homme qui plantait des arbres est finalement totalement libre ? Non. Gallimard, sa maison d'édition, n'était pas du tout du même avis. Elle disait que cette œuvre ne devait pas être diffusée librement et gratuitement sur Internet, comme le faisaient les gens de la communauté Wikisource, qui ont comme mission de diffuser des œuvres dans le domaine public, sur Internet, et de manière gratuite. Que faut-il en conclure ? Que Jean Giono, s'il vivait en 2011, aurait certainement voulu placer son œuvre sous une licence libre. En effet, par exemple, les Creative Commons définissent des termes juridiques qui permettent de diffuser une œuvre, de pouvoir la modifier, même de la commercialiser, selon ce qui est voulu par l'auteur. À présent, on va faire une petite pause musicale avec une petite chanson d'un artiste qui s'appelle Sam, et le titre de la chanson, c'est Arbeit.
De mon enfance, dans la belle et douce France, il y a 20 ans, ces millions de chômeurs, la situation stagne, ça leur réchauffe le cœur. On savait ne pas faire dans la dentelle, Au RPR, les DS étaient présidentielles. Des images Super 8, juste après 78. On croyait encore en la puissance du G8. Des radios libres et des roses rouges. Le sang contaminé qu'il a fallu planquer. Des scandales financiers encore en ancien franc. On construisait l'Europe avec les Allemands. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et l'arabe noyé, il faut qu'il m'en souvienne. Extinction des feux, fin des combats, les années lycées. Et Charles Pasqua dans des ripostes gradués. Des retours au poste frontière de ce que j'ai gardé. Ils étaient moins froids nos hivers. Il ne restera qu'un petit flop dans une grande flaque. D'un mur qui s'écroule, de François et de Jacques. Ces petites filles sont devenues grandes et les vieux garçons jouent au pognon. Cécilia n'a jamais que tiré des rois. Alors petit Nicolas vise la tête de l'État. La 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 la. Petit souvenir de mon enfance dans la belle et douce France. Ces anciens francs, ces anciens combattants. Des millions de gens qui ont pris 20 ans.
Après cette chanson, on continue un petit peu en mode « Vous êtes pas libre ce soir » avec nos amis de chez Google qui ont eu des fantastiques idées. En tout cas, ces idées sont très bien conçues pour que Google, qui est votre ami, vous le savez bien, en sache d'autant plus sur vous. Et justement, ce qu'ils veulent lancer bientôt, le 15 juin, ce sont ce qu'ils appellent les Chromebooks, c'est-à-dire un espèce de PC portable qui contiendrait le système d'exploitation Google Chrome OS, ce qui n'est en fait qu'un terminal permettant d'accéder au web. Alors Google, sachant que les utilisateurs passent la plupart de leur temps sur le web, se disent pourquoi ne ferait-il pas que ça, et surtout pourquoi s'embêterait-il avec ce qu'on connaît actuellement sur le PC, où on installe des applications, où il y a des virus, où on doit stocker ses fichiers chez soi. Eh bien, avec Google, tout sera plus simple, plus facile, ça marchera sans problème. Quand il y aura des mises à jour, ça se fera de manière complètement invisible. Et surtout, ce qui est bien pratique, c'est que quand vous vous connectez sur cette machine, vous devez fournir un compte Google, et donc la machine va gentiment se signaler aux États-Unis chez Monsieur Google. Et également, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stockage sur la machine elle-même. C'est que tous les fichiers que vous enregistrerez, sur lesquels vous travaillez, eh bien, ils seront stockés également chez Monsieur Google. Le monde est bien fait. On vous simplifie la vie. C'est des services gratuits, bon, financés par la pub. Après, on connaît certainement un petit peu toute votre vie privée, on a tous vos documents, on sait exactement ce que vous avez fait et à quelle heure via les services Google. Si se faciliter la vie est à ce prix, alors pourquoi ne pas accepter la main bienveillante de notre big browser qui s'appelle Google maintenant ? Oui, le Minitel des années 2010 est en couleur, il est plus joli, il ne pèse qu'un kilo et demi, mais on est toujours sous contrôle. On va se dire maintenant au revoir et à bientôt sur Vous êtes libre ce soir.